France Culture la nuit, une mémoire radiophonique. Il faut avoir des ennemis, c'est important, affirmait le père de Marie Chantal, personnage de fiction snobissime inventé dans les années 50. Mais des boires ont commencé avec Marie Chantal, ajoutait-il. Il faut dire que le danseur célèbre était devenu, avec ce personnage de Marie Chantal, encore plus célèbre. Au début des années 70, une productrice et un producteur avaient réuni trois amis. Ils parlaient à bâton rompu, comme le veut l'expression, de tout et de rien, parfois en se demandant peut-être pourquoi il fallait à tout prix parler, mais souvent avec plaisir. Des gares, des trains, des hôtels, des loges de théâtre. Quelle horreur à Paris et en province, n'en parlons pas. De Paris et de la campagne, de l'opéra comique, de la tour Montparnasse, en projet, en construction, une abomination à venir. Des nouveaux endroits pour aller boire, des whisky, peut-être. On écoute Barbara, Piaf, Gréco, on s'amuse autour de la table. Noctambule ou snob ? Feu vert à Jacques Chazot, première diffusion sur France Culture le 10 août 1970.
Lilissiou donne le feu vert à, ce soir, Jacques Chazot. Il a invité Françoise Sagan et Marie Belle. Présentation de Lilissiou et François Le Targa.
Jacques Chazot, qui a ce soir le feu vert, a demandé à ses deux amis, Françoise Sagan, romancière et aussi auteur dramatique de renommée internationale, et à Marie Belle, cette merveilleuse comédienne à laquelle nous devons tant de soirées inoubliables, d'être auprès de lui. Je voudrais vous parler de Jacques Chazot. Ce n'est pas chose si facile, car il est multiple. C'est un grand garçon à la physionomie pleine de charme et de malice. Sa carrière, je devrais dire, ses carrières. Danseur étoile à l'Opéra de Paris, maître de ballet à la Comédie Française, présentateur officiel du bal des débutants, il a participé à des centaines d'émissions télévisées en France et à l'étranger, auteur de nombreuses chorégraphies, pour ne citer que Pas de Troie, L'été arlésien, Bandry, La Belle de Paris, Échange d'un regard, justement de François Sagan. Il écrit aussi. Nous avons pu lire de lui Marie Chantal, restée célèbre, si vraie que nous pouvons la croiser souvent au long des jours. Cette Marie Chantal qui lui a permis de satisfaire son goût d'une satire un peu acerbe et qui pourrait peut-être placer comme un poignard élégant sur son collant de danseur. Il aime collectionner et les antiquaires connaissent bien ce grand garçon amateur d'objets ayant appartenu aux dames célèbres du XIXe siècle. Mais j'arrête là mon énumération, car si Jacques Chazot excelle dans les pointes, je sens que mon ami François Le Targa a très envie de lui en envoyer. Donc, place à feu vert. Jacques Chazot, s'il vous plaît, parlez-nous des amis qui ce soir partagent votre soirée.
Parler de mes amis, vous comprenez, d'abord devant elle, c'est très difficile, mais parler de Marie Belle et parler de Françoise Sagan, vous comprenez, il y a trop à dire, il faudrait faire une émission de 17 jours. Moi, je peux pas parler d'elle, vraiment, je peux pas parler d'elle.
Dites tout de même quelque chose.
Je les admire, voilà. Je les aime, je les adore, et puis je crois qu'elles me le rendent bien puisqu'elles sont avec moi ce soir.
Oui, ça c'est vrai.
On lui rappellera ce qu'il a dit.
Ah oui, on lui rappellera. Oui, on lui rappellera, sûrement. Non, moi je suis très contente d'être là pour Jacques. Parce que je trouve que Jacques Chazot est un véritable ami. On lui trouve souvent, il a des ennemis, on lui trouve beaucoup de défauts, comme toutes les personnalités, d'ailleurs il en a une très grande, Mais moi, je l'aime profondément parce que, je vous le répète, il a sa personnalité. Et quand on a du chagrin, qu'on est ennuyé ou qu'on a un peu le cafard, à n'importe quelle heure du jour ou de la nuit, on peut appeler Jacques. Il vous répond tout de suite.
Chérie,
c'est ce qui est extrêmement rare.
Je peux te dire que c'est parce que c'est toi tout de même. Parce que si tout le monde se met à
Non, mais je t'admire beaucoup parce que quand tu aimes les gens, tu les aimes énormément.
Mais ça, c'est très rare.
L'amitié est une chose très importante. Et je crois que Jacques a le sens de l'amitié. Et moi, j'aime beaucoup ça. Je trouve que c'est merveilleux parce que l'amitié est une chose très importante dans la vie.
Eh bien, heureusement
voilà,
que c'est
maintenant,
une...
je te l'ai dit.
Ben, mon chéri, heureusement que c'est une émission de radio parce que je suis déjà au bord des larmes.
Oui, mais alors, Jacques Chazot, est-ce que précisément la cabale, car il est toujours question de cabale autour de vous, n'est pas venue de jaloux qui ne sont pas vos amis?
Ben, ce sont les jaloux à qui mon amie Marie-Belle, justement, ne téléphone pas. Enfin, ça
mais
fait
il faut avoir
de
des ennemis, c'est important.
Mais c'est très bien, ça fait partie. Maintenant, ça me manque. L'autre jour, il m'est arrivé de danser avec Claire Mott et puis on a eu beaucoup de succès. Alors je me suis dit, il se passe quelque chose. C'est un rideau, six rideaux, sept rideaux, puis s'applaudissait toujours. Et alors, elle m'a traîné devant le rideau, vraiment, c'est la première fois qu'on me traînait parce que j'ai plutôt tendance à traîner les autres. Et ben non, je suis allé devant le rideau et surpris, non, applaudi. Mais nous, si tu avais été là, ça aurait été très important.
Non, parce que la cabale de Jacques, c'est une cabale avec un K et un H. C'est un rapport avec des événements politiques récents.
Oh, François Sagan, vous croyez que c'est un rapport avec la politique? Parce que Jacques Chazot a dit un jour, pour moi, la droite et la gauche, c'est cour et jardin. Alors, je ne pense pas qu'il fasse de politique.
Non, on ne peut pas être plus précis et plus ferme.
C'est ce que je veux dire. Enfin, je sais très bien, je ne fais pas de politique, je ne sais pas du tout ce que c'est. Puis les gens qui en font, ça me barre. De toute façon, il ne faut pas mêler la politique et le théâtre.
Oui, ah, bravo.
Ça, sûrement.
Ah, ça, je suis bien d'accord avec toi. Oh.
Non, mais je vais vous dire pourquoi il n'y a pas eu de cabale l'autre soir quand vous avez dansé. C'est parce que Madame Faligan et Mademoiselle Mariani n'étaient pas dans la salle. Oh. Vous savez, ces dames qui ont dit « il ne danse pas, il piétine », il fait des pointes comme une fille », enfin, qui sont deux secrétaires du quartier de la Bourse, fanatiques et très connaisseuses, si l'on peut dire, ou connaisseurs, de la danse, qui se déplacent jusqu'à Londres en faisant des économies sur leur petit salaire.
Mais pourquoi ces dames ont des noms de médicaments? Quel nom avez-vous dit?
Je le répète, c'est un article de presse, vous pouvez vérifier. Madame Faligan et Mademoiselle Mariani.
Oui. L'apéritif Mariani, non? C'est plutôt l'apéritif.
Mais, ce sont des coupures de presse, effectivement, ce sont les premières dames de la cabale. Mais.
Cabale.
Oui, la cabale, on va dire ça maintenant. Mais ces dames, après tout, au fond, elles m'ont fait... Au début, elles m'ont fait du mal, parce que la première fois, j'étais vachement surpris, parce que je crois toujours que les gens m'aiment bien, moi. Comme j'aime les gens... Par exemple, tout à l'heure, vous m'avez demandé de parler de mes amis Marie-Belle et François Sagan. J'ai fait, oh, mais il faudrait parler des hommes. Mais si quelqu'un me dit, que pensez-vous de Marie-Belle ou que pensez-vous de François Sagan à l'extérieur, je ferais, oh ben, enfin... Je veux dire que pour moi, ça va de soi, et peut-être ce « oh ben, enfin », ça peut s'interpréter, on peut dire, bah quoi, il les aime pas, ou il en parle pas bien, etc. Ça veut dire que ça va de soi, du moment qu'on les aime, on les aime, voilà.
Oui, mais je crois justement, Jacques Chazot, qu'il y a à votre sujet, je ne prends pas là votre défense, mais qu'il y a à votre sujet ce qu'on pourrait appeler un malentendu. Sans doute parce qu'on ne connaît pas. On vous connaît comme personnage, c'est-à-dire d'une part comme danseur étoile à l'opéra comique, avec les portes claquées, les grandes histoires.
Oh, je suis étoile ailleurs aussi. Hein.
Et bon,
vous n'êtes qu'étoile. Moi, je suis étoile, bon, voilà.
Alors ça, c'est une chose. Et ensuite, le père de Marie Chantal, l'auteur du Dictionnaire des Parisiens, le Pense-Bête, où vous avez mis en première page la Vicomtesse de Ribes en photo sur un livre qui s'appelait Pense-Bête.
Reconnaissez que c'était très élégant, car elle était sur la photo et la couverture, mais elle n'était pas nommée.
Non, bien sûr. La presse
vous êtes archi snob de l'avoir reconnue. Vous êtes formidable.
Ça, c'est très jeune. Et on vous reproche d'être snob. Alors, est-ce qu'il n'y a pas là, justement, un malentendu, d'autant plus qu'on sait que snob veut dire sine nobilitate, autrement dit, imparvenu.
Oui.
Alors, je crois que... Expliquez-vous.
Non, je crois que c'est plutôt le contraire. Je crois que pas du tout, je suis pas du tout snob. Il se trouve que tous les gens que j'aime bien sont des gens célèbres. Bon, c'est comme ça. Mais c'est tout à fait le hasard. Et puis, les gens que j'aime bien, naturellement, à part Marie et à part Françoise, qui étaient célèbres lorsque je les ai connus...
Et puis, entre nous, il y a plein de crétins que tu aimes bien qui sont complètement inconnus.
Oui. C'est vrai, mais alors ça, les gens ne s'en souviennent pas de ceux-là. Non, c'est vrai. Non, vous comprenez, quand j'ai connu Robert Hirsch, il sortait du conservatoire. Quand j'ai connu Jeanne Moreau, elle était inconnue. Quand j'ai connu Vadim, elle était inconnue. Et puis enfin, quand j'ai connu Bardot, elle travaillait la danse avec moi, elle était inconnue. Et tout ça sont des gens que j'aime beaucoup, qui sont mes amis, mes copains, et ça change rien,
quoi. Mais en tout cas, vous avez un don aussi, entre autres.
Vous savez garder vos amis. Quand vous les avez bien.
Bah, vous savez, je me suis dit une chose, finalement, parce qu'à un moment donné, je me suis posé des questions. Puis je me suis dit, au fond, c'est merveilleux de les avoir comme amis. Je me suis dit, mais je suis peut-être pas si mal non plus, puisqu'ils continuent à me voir. Il y en a des gens qui rencontrent des gens dans le monde, et puis ça arrive une fois. Bonjour, comment allez-vous? Tout le monde a rencontré tout le monde, mais ce qu'il faut, c'est avoir envie de se revoir.
Les garder, oui.
C'est-à-dire qu'on n'a pas tellement le choix avec Jacques pour ça.
Pourquoi il est envahissant?
Pas du tout, mais si on pendant 15 jours on ne le voit pas, il vient, donne une paire de claques et il s'en va. Alors forcément, ça vous rappelle à l'ordre.
Oui, mais c'est parce que c'est toi.
Vous êtes très amis aussi avec Julien Gréco.
Très, mais très, vous pensez?
C'est amusant d'ailleurs parce qu'un de nos confrères dans la presse a dit un jour de vous, le danseur physique de Gréco, le peintre bien entendu, pas la chanteuse.
Ben je suis, alors écoutez, pour tout vous dire, c'est vrai, on a souvent dit que je ressemblais à un tableau du Gréco, mais j'aimerais mieux physiquement ressembler à Juliette, comme ça serait plus séduisant. Enfin, je ne sais pas si mon emploi serait le même.
Dites-moi, Jacques Chazot. Jacques Chazot, il y a une chose moi, qui m'a un peu choqué, je vous le dis tout de suite. Ne faisons pas de cas personnel. Nous sommes presque du même pays, qui est un assez beau pays. Vous avez dit, je déteste la nature, la vue d'une botte de radis me rend malade. C'est du snobisme, ça, ou...
Pas du tout, c'est complètement la vérité. Et une personne ici présente m'a fait découvrir la campagne, c'est Françoise, quand elle m'a emmené dans sa maison de Normandie. Car l'idée même d'un week-end, il y a 10 ans, me rendait malade. Et il m'est arrivé, Françoise était là, puisque je partais avec elle. Et il m'est arrivé un soir, nous avons dîné, nous partions à plusieurs en week-end, et je me sentais tellement mal, tellement angoissé, que finalement, ils sont tous partis, moi je suis revenu déjeuner le lendemain. L'idée de quitter Paris, partir et revenir, ça me rendait
oui,
malade.
Mais on n'allait pas dans Normandie, on allait à Chantilly.
Ben, c'était pareil, on quittait Paris, quoi.
Mais pourquoi vous avez si mauvais souvenir de Loc Mickélic?
Non, absolument pas. C'est pas du tout. Ça n'a rien à voir avec
la
Bretagne. J'aime pas la campagne. J'aimerais, au lieu d'être invité en week-end dans des maisons superbes, j'aimerais bien être invité place de l'Europe avec les chemins de fer et j'aime bien ça.
François Sagan, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Tout vendre, acheter place de l'Europe, un building pour recevoir Jacques Chazot. Oui, comment il se comporte à la campagne avec vous quand vous le traînez?
Il y a beaucoup de trains à la place de l'Europe.
Oui, mais c'est ça qui est joli. Pour partir.
Non, mais il faut dire que la campagne avec François, c'est divin.
Hein. La campagne, il est très convenable. Il a tout, même blue jean, des chemises à raies qui changent selon les jours, des humeurs assez stables.
Ouf, j'aime mieux ça que l'inverse.
Une humeur assez stable.
Est-ce qu'il vous aide à couper vos rosiers?
Ah, mais je ne coupe pas moi-même mes rosiers. Il faut dire que je suis aussi peu campagnarde que lui, mais j'aime bien être à la campagne, mais je ne vais pas traire mes vaches, d'ailleurs. D'ailleurs, il n'y en a qu'une. Et si
non,
vous voyez venir, elle partirait.
Je coupais les rosiers quand même.
Je n'ai pas tellement d'activité fermière.
Mais il doit le regretter, puisque Jacques Chazot a dit qu'il a admiré une femme qui s'appelait George Sand. Or, comme a dit André Mauroy, elle avait, je ne fais aucune comparaison avec vous, bien sûr, elle avait de l'adultère ménager, c'est-à-dire qu'elle aurait pu traire la vache, écrire ses 20 pages tous les jours, soigner ses enfants, tailler les rosiers, mettre les géraniums en pot, rencontrer évidemment tout le monde de la revue des deux mondes de l'époque, toute l'académie, tous les gens célèbres, les gens de gauche avec lesquels elle a milité. Alors là, vous devez être un peu déçu que vos amis ne soient pas
du tout.
Un peu des Georges Sand.
C'est vous qui confondez.
L'époque n'est plus la même.
Exactement, c'est-à-dire qu'au lieu de traire les vaches, eh bien, elle conduit sa Maserati.
Oui.
Non, voilà. Puis on se repose, on se met sur l'herbe, puis on se repose. Parce que c'est fatigant, Paris.
Oui. Et vous, Jacques Chazot?
Moi.
Un coin calme dans Paris?
Non,
un coin trépidant.
J'ai horreur de ça, je ne sais pas me reposer, je ne sais pas ce que c'est, j'aime bien, vous comprenez. Ce n'est pas par hasard qu'on dit, voilà aussi, vous allez me dire que c'est du snobisme, mais ce n'est pas par hasard que je vais chez Castel ou chez Régine. Ce n'est pas du tout, je ne bois pas, je n'y vais pas pour picoler, je n'y vais pas, je ne suis pas un noceur en fait. Si j'y vais, c'est parce que c'est un endroit où il y a du monde, du mouvement, où c'est gay, c'est une espèce de club, et si j'ai besoin de ça, ça veut dire que, au lieu de partir 8 jours en vacances, j'aime mieux rester 8 jours à Paris, aller au cinéma, voir mes amis, et aller chez Castel, chez Régine le soir.
Et puis, il peut pérorer chez Castel?
Bon, à la campagne aussi, je peux parler seul, enfin.
Non, tu peux pas parler seul.
Moi, j'habite aux Champs-Élysées, il y a pas de bruit, mais enfin, là, je suis dans le centre, c'est très agréable, je suis comme toi, j'aime Paris.
Oh, mon enfant,
oui. Oui, mais enfin, j'aime le capital, j'aime les hôtels.
Mais oui.
Oh, j'aime bien, moi, j'aime les hôtels. J'aime pas les maisons, mais j'aime les hôtels.
Oh, l'hôtel, c'est divin. Un bon hôtel.
Un bon hôtel, chérie. Oh, c'est divin.
Écoutez, par contre,
c'est comme. Oh, oui, allons à l'hôtel.
On va prendre un étage.
On va aller à l'hôtel.
Les hôtels.
Ah, les hôtels,
mais
quel rêve.
Mais il y a des personnes qui habitent toute l'année.
Ah oui, mais ils ont raison. À Londres, ça se fait beaucoup, beaucoup plus qu'à Paris. Les gens qui habitent à l'année, c'est très bien.
Oui, parlez-nous de vos projets.
Nos projets?
De
mes
projets.
Vos
projets, tous les trois. Parlez-nous, chacun.
D'après la presse, toujours, Jacques Chazot en a un permanent, puisqu'on a dit de lui qu'il était l'amuseur des économiquement forts.
Qui a dit ça?
Ah, c'est noté, si, je vous donnais la référence. La mesure chérie, pardon, excusez-moi Jacques.
Ça me rassure, Minou.
Mais là aussi, les gens se trompent complètement. C'est que, et Françoise et Marie peuvent le dire, moi, je suis quelqu'un d'assez gai de nature. Mais je ne me force pas. Si je fais ha-ha-ha-ha, c'est parce que je suis de bonne humeur. Mais demandez-leur si je suis de mauvaise humeur, je vous assure que...
Oui,
fais
pas ha, non.
Je fais pas ha-ha-ha.
Ah non, tu fais pas ha. Non, non, t'as vraiment...
Non, vraiment pas.
Ah non, alors.
C'est une erreur totale. Enfin, je me force pas du tout.
Soyons un peu sérieux.
C'est ce que je vous disais, c'est le malentendu, Jacques Chazot. J'aimerais bien qu'au cours de cette soirée, vos amis... Et vous-même, d'ailleurs, peut-être, l'initio, on sera d'accord, fasse le point.
Mais j'ai pas besoin de me justifier, je veux dire
ah
que...
Ah non, je demande pas de vous justifier, pas
justifier,
du tout.
Vous auriez bien tort de vous justifier. Justifier de quoi?
Je veux dire
vous
que si...
brillamment votre métier.
Je veux dire que si je suis gay, je suis gay. Si je
très
suis...
doué, non.
Si je suis gay, je suis gay. Si je suis pas gay, bah, tant pis pour moi, quoi, voilà. Je le regrette assez, croyez-moi.
Et peut-être tant pis pour les autres, non?
Ah oui.
Ok, de
surtout,
ses amis.
Surtout tant pis pour
alors,
les autres.
Alors, je repose la question. Quels sont vos projets? Qu'est-ce que vous avez en train? Qu'est-ce que vous allez faire?
Bon, alors, qu'est-ce que j'ai en train? Ne trompons pas les gens.
Racontez-moi tout.
Mes projets, rien. Je danse deux fois par semaine à peu près, ou trois fois à l'Opéra Comique, ou une fois une soirée Ravel, l'autre fois la Chauve-Souris. Je prépare deux émissions de télévision, et puis une vague petite pièce pour la télé... c'est dans l'immédiat. Mais vous savez, nous, notre temps, notre année est vite bouclée. Enfin, une émission, on dit, oh, bah, bon, une émission, c'est quoi? Mais une émission, ça prend du temps. Enfin, il faut répéter, il faut la préparer. Et puis on l'a fait, et puis c'est passé déjà. Je veux dire que, pour l'instant, je ne peux plus avoir de projet avant octobre prochain, parce que jusque-là, c'est bouclé.
Il y a un livre en chantier?
Oh, un livre, vous savez, comment est-ce que je peux parler d'un livre quand je suis à côté de Françoise?
Mais ça ne fait rien.
Non, non, non. Non, non, non. Je veux dire un livre, moi, hélas.
Je vais pas m'énerver, tu sais.
Non, mais tu peux peut-être danser. Non, mais. dire. Non, je veux dire que je suis quelqu'un qui a des dons comme ça, en parole. Non, non, non. Je pense que je suis beaucoup. Je suis. Oh, tais-toi. Je pense que je suis beaucoup plus brillant. Oui, pas partout. Pourquoi pas? Brillant dans les propos et puis noir sur blanc, gna 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 gna, ça fait un petit peu. Enfin, je veux dire, je ne suis pas Tristan Bernard, hélas.
Non, mais enfin bon. Mais
comment non? Vous exagérez. Je trouve que ça.
Non, je réponds ce que vous dites. Non. Il y a Tristan Bernard et puis il y a vous. Et chacun sa personnalité. Du moment que vous la traduisez, c'est l'homme. C'est l'important.
Mais je crois que...
Heureusement, faut pas... C'est horrible quand on dit de quelqu'un, c'est un intel, c'est un Tristan Bernard, c'est un chanteur, c'est un...
Oui, mais c'est... Non.
Qu'est-ce que ça veut dire?
Oui, mais ça, c'est bien embêtant parce que...
On est soi-même, il faut ressembler... Enfin, n'est-ce pas?
Oui, seulement, malheureusement, madame, vous oubliez...
Moi, c'est un affront quand on dit de quelqu'un, ah, c'est fou, c'est une granier. Oh,
oui,
c'est terrible.
Oui, mais seulement vous oubliez une chose, c'est que mon métier est la danse et que finalement le reste a empiété là-dessus. Alors jusqu'ici ça m'a à la fois servi et gêné, mais dès que je ne serai plus, oui, mais mon violon a dépassé le reste et dès que je ne serai plus sur le marché, eh bien je peux vous dire qu'à ce moment-là peut-être ce sera mieux, voilà.
Si vous le voulez bien, nous allons maintenant faire une pause musicale et écouter Quand reviendras-tu par Barbara.
Voilà combien de jours, voilà combien de nuits, voilà combien de temps que tu es reparti. Tu m'as dit, cette fois, c'est le dernier voyage pour nos cœurs déchirés, c'est le dernier naufrage. Au printemps, tu verras, je serai de retour. Le printemps, c'est joli pour se parler d'amour. Nous irons voir ensemble les jardins refleuris et déambulerons dans les rues de Paris. Dis, reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne se rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. Le printemps s'est enfui depuis longtemps déjà, craque les feuilles mortes, brûle les feux de bois. Avoir Paris si beau dans cette fin d'automne, soudain je m'alanguis, je rêve, je frissonne, je tangue, je chavire et comme la rengaine. Je vais, je viens, je vire, je tourne, je me traîne. Ton image me hante, je te parle tout bas. Et j'ai le mal d'amour, et j'ai le mal de toi. Reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus. J'ai beau t'aimer encore, j'ai beau t'aimer toujours, j'ai beau n'aimer que toi, j'ai beau t'aimer d'amour. Si tu ne comprends pas qu'il te faut revenir, je ferai de nous deux mes plus beaux souvenirs. Je reprendrai la route, le monde et mes merveilles, j'irai me réchauffer un autre soleil. Je ne suis pas de celles qui meurent de chagrin, je n'ai pas la vertu des femmes de marin. Dis, mais quand reviendras-tu? Dis, au moins le sais-tu, que tout le temps qui passe ne s'en rattrape guère, que tout le temps perdu ne se rattrape plus.
Jacques Chazot, êtes-vous heureux d'être né à notre époque ?
Ah oui. C'est-à-dire que je suis heureux d'être né à mon époque. Parce que j'aimerais pas du tout avoir l'âge de mon filleul, le fils de Françoise, avoir 7 ans maintenant. J'aimerais pas ça du tout. Parce que j'ai eu la chance, bon, en remontant les Champs-Élysées, de voir de vieux hôtels, de vieilles maisons super, badaboum, on peut pas dire des HLM aux Champs-Élysées, ça doit pas être ça. Mais enfin, des trucs qui sont transformés en... Je ne sais pas, en drugstore, en bidule effroyable et tout. Ah non, 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 non. Ça, je suis content parce que j'ai connu à la fois ce que c'était et en même temps ce que c'est maintenant et en voyant ce que ce sera. Je veux dire que la tour de Montparnasse, je ne l'ai pas vue, je suis comme vous tous. Et mais j'imagine ce que ce sera. Ça ne m'amuse pas du tout. Oh non.
Comment ça fait que tu ne l'as pas vue?
Bah parce qu'elle n'est pas construite.
Elle est dans le machin qui est à Montparnasse, c'est pas ça.
Mais non, bah, la tour de Montparnasse, c'est ce qu'il y a à la place de la gare.
Ah bon,
il va y avoir ça va être construit, il va y avoir une énorme
ça
tour.
Ça commence à sortir, c'est
oui,
horrible.
Mais oui, mais moi, ça me passionne pas du tout, ça m'est égal.
Ça, monstrueux, inhumain.
Non, non, non. J'aime bien mieux le pavillon de Mademoiselle Mars à Versailles que de voir ça. C'est de mon avis, non?
Oui. Madame Sagan, vous écrivez en ce moment?
Non, en ce moment, je n'écris pas du tout, non. C'est une paresse extrême.
Quel malheur, c'est pas possible.
Si, elle travaille, elle vient de faire des scénarios, elle travaille.
Non, vraiment mollement.
Vous aimez écrire à Paris ou bien préférez-vous vous en aller?
Ça me comment est égal. Personnellement...
Ça vous est égal?
Oui. Vraiment, ça me dérange pas.
À partir du moment où tu as décidé d'écrire, tu écris?
Quand j'ai décidé, j'y vais, mais autrement, j'y vais pas, quoi.
Mais allez-y vite.
Merci.
Pour notre joie. Chère Marie-Belle, et vous?
Moi, je ne sais pas.
Marie-Belle dirige.
Je ne fais pas, oui. Mais je fais pas de projet. Oh non. Non, non. Je trouve qu'en ce moment, il faut vivre au jour le jour. Je fais pas de projet. J'en ai tant dans ma tête, vous savez. Alors, je ne sais pas lesquels. Je ne sais pas ce que je ferai, ce que je ne ferai pas. Je gamberge, comme on dit en ce moment.
Pour une femme de théâtre, c'est important pendant les projets. Mais oui. C'est ce que je disais tout à l'heure.
Mais on peut pas.
Pour Marie, il suffit qu'elle ait une pièce qui marche dans son théâtre. Tout est chamboulé. Oui. Si la pièce ne marche pas, il lui faut changer tout immédiatement.
Oui, bien sûr.
Si la pièce marche, tout le programme est décalé d'un an, deux ans.
Comme directrice, vous avez des joies?
Ah oui, beaucoup, profondément. Oui, j'aime beaucoup. Je trouve que c'est merveilleux. Ah oui, ah oui, ah oui. C'est beaucoup plus compliqué qu'être simplement actrice. Parce que là, quand on est enceinte, on l'est, on accouche, on rate son enfant ou pas. Mais enfin, c'est assez fascinant. Ah oui, c'est fascinant.
Ouais,
s'occuper de tout, c'est merveilleux.
Oui, mais c'est fascinant parce que tu es à la fois actrice
et
directrice.
Bien
mais
sûr.
Seulement directrice, t'en feras une tête.
Ah oui, oh, non, je ne crois pas.
Et nous donc?
Ah oui, ça c'est gentil. Ça c'est gentil.
C'est très charmant.
Non, mais c'est vrai. C'est gentil. Non, mais c'est très fascinant parce que tout est complet quand même. Tout. C'est très fascinant de faire marcher une maison comme ça. C'est lourd, mais c'est fascinant. Et puis, voilà, j'attends que Françoise écrive, parce que vous savez, c'est la femme que j'admire le plus, pour qui j'ai le plus de tendresse et d'affection, et j'ai une admiration
aussi,
profonde pour elle.
Profondément.
Tout ce qu'elle fait, je l'adore.
Tombé sous la table, ivre de...
Oui, oui, il tombe sous la table,
ivre
ma chérie.
De joie.
Ah, non,
oui.
Mais vraiment.
C'est vrai, c'est vrai.
Vous avez un grand talent.
Oui, là. Grand talent.
Mais moi, je vais dire une chose.
Une femme qui écrit admirablement.
Je vais dire une
poésie
chose.
En elle, formidable.
Maintenant, j'ai jamais dit à Marie, c'est vrai, j'y pense depuis longtemps, c'est-à-dire que j'ai vu Marie admirable dans tout ce qu'elle fait, dans tout ce qu'elle joue, dans tout ce qu'elle a joué. Et je dois dire qu'à la première de Phèdre, ce qui m'a frappé beaucoup à la première du film à l'opéra, c'est l'hommage que Paris lui a rendu dans la loge. C'est-à-dire qu'elle était dans sa loge, elle était dans la salle s'est tournée vers elle. Et je dois dire que c'était, en dehors de la qualité du film, c'était même plus ça, c'était un hommage qu'on te rendait à toi. Et je trouve que c'était... C'était formidable, en plus, t'étais superbe.
Vous m'avez fait pleurer.
Oui, mais c'était superbe.
Mais,
Je voudrais faire rire maintenant.
Ah, non, oui, enfin. C'était super, mais c'était rigolo parce que Marie, elle dormait. J'étais la félicité. Elle
dormait
complètement.
Oui, oui, complètement.
C'est-à-dire qu'elle avait dû voir le film 4 ou 5 fois.
Tout de même.
Et jouer la pièce de 1000 fois.
J'étais là à lui dire la félicité, l'embrasser et tout. Elle m'a dit, elle était là.
J'étais tellement émue, j'étais complètement gâteuse. Voilà, c'est pour ça, complètement gâteuse. J'étais complètement gâteuse, affolée. Je me demandais ce qui m'est arrivé, c'est vrai.
Quand même en robe de Dior, divine, rose, et les fourrures, les bijoux et tout, c'était quand même superbe.
Oui, mais ma rage arrivée comme un tremblement.
Endormie, mais pas folle.
Admirable, admirable. Puis bouleversant, mon Dieu, on était...
C'était un grand moment de ma vie, je veux dire, la soirée de l'opéra.
On souffrait physiquement.
Oui.
Ah oui.
Moi aussi, j'ai souffert physiquement.
Pour que nous puissions souffrir comme ça, fallait-il que...
Mais enfin, je dois dire que c'est un beau souvenir pour moi, parce que cette salle de l'opéra, j'avais tellement peur. C'était très beau, je veux dire, c'est un beau souvenir, c'est vrai. Très beau. Puis dans ce cadre, c'était très beau. Ta maison, là, tu comprends.
L'usine.
Pour une fois, je suis allé à l'opéra, moi aussi, tu comprends, je pourrais le dire.
Pas encore dansé au gymnase Marolles.
Oui, c'est ça.
Non, mais justement, Jacques Sadot vient de dire, j'ai pas encore dansé, au gymnase, et pourquoi pas.
Et pourquoi pas, après tout, oui, bien sûr.
Ta beauté.
Pourquoi, ah oui, ça, c'est ta beauté. Ah, oui, c'est vrai.
Marie-Belle, j'espère qu'on va pouvoir faire bientôt un building, comme disait Jacques
Sadot. Ah non.
Vous le préservez.
Je le préserve autant que je le pourrais, je préserverai le théâtre, bien sûr.
Cela dit, je parlais de building tout à l'heure, mais il y a, je trouve, un progrès alors, dans l'esthétique, c'est qu'il y a eu un moment où tous les bistrots de Paris qu'on aimait tellement. Ont été transformés, on a mis du néon partout, un faux moderne, c'était affreux.
Horrible.
Et tout à coup, cette vogue du pub qui a l'air d'une chose maintenant de western, et ben c'est beaucoup plus joli.
Parce que tout à coup, vous vous trouvez
du côté de la gare du Nord et vous voyez un pub, bon, ça a l'air d'un film, mais en tout cas, c'est joli à regarder.
Oui. Le seul ennui, c'est qu'il n'y a plus de cow-boy.
On va envoyer des figurants. Ah non, c'est agréable de dîner aux bougies, non ?
C'est si joli, les bougies.
Ah, c'est merveilleux. C'est merveilleux.
Oui, puis ils ont recréé, d'ailleurs, des coins, en somme, dans ces pubs.
Oui, puis c'est joli, je veux dire que...
les chemins de fer de la Reine Victoria, enfin, on est quand même dans un coin.
Ah oui,
on n'est pas dans une grande salle, on n'est pas perdu.
Non, mais par exemple, il y en a un rue Lafayette, que je suis allé l'autre jour après l'opéra avec ma partenaire et amie Josette Amiel. Elle dansait le soir, elle dansait Gisèle. Bon, alors je vais prendre un verre, où va-t-on ? Elle me dit, mais il y a un pub là. Nous sommes allés, eh bien je vous assure que quand ce pub était un bistrot, c'était impensable d'y aller. Et là, non pas que la clientèle ait changé, mais l'endroit est exquis et c'était... On était bien, quoi. On est complètement déphasé. On a l'impression que le pub se déplace avec vous. Vous pouvez très bien être aux Champs-Élysées, rue Lafayette, à la gare du Nord ou n'importe où. C'est très joli. Mm-hmm. Et ça, c'est important tout de même. Ça fait partie des choses. Ça, avec le nylon, la matière plastique et tout comme ça, je trouve que ça fait partie du programme.
Oh non, c'est très dangereux pour la santé.
Quoi ?
Oh, j'aime pas le nylon. Oh.
Je pensais que tu lui parlais du pub.
Tu fumes une cigarette dans ton lit, comme une chemise en nylon et hop.
Hop, ça y est, tu flambes.
Adieu.
Okay. Adieu, oui.
Pour employer un grand mot qui est très à la mode et qui est environnement. Qu'est-ce que ça veut dire, environnement ?
Environnement.
Vous parliez de ces décors, ces coins que vous aimez. Et vous, dans vos métiers donc de danseur, d'actrice, de grande vedette, les endroits où vous jouez, les loges que vous avez, ça compte beaucoup pour vous ?
Ah, pour
le
moi,
petit
ça
coin,
compte.
Le petit coin où vous vous retrouvez.
Ah oui, moi, ça compte beaucoup. D'ailleurs, dans mon théâtre, j'ai installé des loges, pour les acteurs qui jouent chez moi. Je crois très bien, parce que, étant actrice moi-même, je trouve que c'est très agréable d'être dans un endroit agréable, chaud, avec l'eau courante, avec une salle...
C'est les seules loges convenables dans Paris, je crois.
Enfin, une salle de douche, c'est ça, parce que j'ai le respect de, quand même des acteurs. Ça, je n'admets pas dans les autres théâtres quelques-uns. Enfin, il y en a quelques-uns très bien, heureusement, mais il y en a d'autres, vraiment. Écoute, on rentre par le pipi.
Mais il n'y a pas besoin d'aller plus loin. L'opéra comique, enfin... je suis désolé, mais en sortant d'une soirée de ballet, il y a une douche à un étage, et alors si le corps de ballet y est déjà, ou si les choristes courent, il n'y a rien à faire. Enfin, on n'a pas de douche dans les loges, et c'est d'un inconfort total. Enfin, ça a l'air d'une vieille cuisine de Montargis.
Moi non plus, je n'ai pas de douche dans ma loge.
C'est la loge qu'on va trouver.
On manque à y avoir du progrès, parce qu'il me souvient qu'à l'ambigu, qui maintenant est disparu, il y avait des sous-hygiéniques, et je me souviens de René Dziller, ah, je vous le jure,
non,
et Robert Murzeau, allant à la fin du spectacle vider eux-mêmes leur seau, dans lequel ils avaient versé l'eau sale de leur démaquillage.
C'est pas croyable.
Et il y avait la concierge qui disait, il faut vider ses seaux. À Madame de Villers et à Monsieur Murzeau, il y a de cela 13 ans.
C'est pas croyable.
Ça, non, mais ça existe encore à Paris.
Ça existe à Paris, oui.
Enfin, les loges des Mathurins, je ne sais pas si...
Non, je connais pas. Oh, mais je n'ose pas dire certains théâtres que je connais, c'est quelque chose, c'est pas pensable.
Et en province, non ?
Oh, ça, on en parle pas, alors là.
Alors, ce qui est dangereux pour nous, par exemple, au Théâtre National, ce qui est dangereux, c'est que quand on arrive, quand on va, par exemple, à l'Opéra de Rome, où il y a la loge, la douche, un petit salon, le téléphone dans la loge. Ouais. On se demande ce qui vous arrive. Enfin, on s'attend à recevoir une note à la fin. Pas du tout, c'est comme ça.
Mais les plus beaux théâtres que j'ai vus, c'est en Russie. Alors, le confort en Russie est absolument merveilleux. Les théâtres sont sublimes. Absolument sublimes et impeccables.
Mais en Russie, ils ont toujours aimé les
comédiens. Ah, ça, ils adorent les comédiens. Les ouais, moi, si vous allez jouer là-bas, je vous assure que je peux en parler. C'est vraiment formidable.
Régime, ils étaient gâtés au combien. Et je crois
mais ils ont gardé l'amour du théâtre, ça, il n'y a pas de problème. Ah oui, même maintenant.
Les actrices, voilà. Les actrices sont leurs tsarines. Enfin.
Oui, non, c'est vrai, c'est formidable. Et les théâtres sont d'une beauté, vous ne pouvez pas savoir, formidable, ce sont des musées, ça, c'est formidable.
Oui, on parle de théâtre, et justement, j'ai relevé, Jacques Chazot, un mot de vous. J'ai vu qu'on décapait la façade de l'opéra. On aurait dû commencer par l'intérieur.
Mais, j'ai écrit ça il y a 4 ans, et c'est ce qu'on est en train de faire, à croire qu'on m'a lu.
Mais je crois qu'on vous a beaucoup lu.
Mais l'intérieur, on ne va pas y toucher, tout de même.
Non, mais l'intérieur, je veux dire, je voulais parler à l'administration.
À l'administration, pardon, oui, mais ça c'était. Pas compris.
Non.
Marie-Belle, est-ce que chez vous, l'entrée des artistes s'appelle administration, comme au Théâtre français, vous avez joué si longtemps? Non.
Oui, administration.
Administration.
Ah, et pour le concierge, gardien.
Mais très classique, votre amie Marie-Belle.
Non, mais ne me dites pas que vous ne le saviez pas.
Non, mais je trouve qu'administration, c'est l'administration. Non, je n'ai pas mis entrée des artistes, non.
C'est vrai, c'est l'administration.
Ma Marie a un avantage, c'est qu'elle peut jouer un jour Phèdre ou Bérénice.
Ou la bonne soupe.
Et le lendemain, la bonne soupe. Alors,
Bonjour, monsieur Oscar.
Oui, je comprends, c'est facile. Pour toi, je veux
dire. Ah non, et la pièce que j'ai jouée de François chez moi, c'était merveilleux, le cheval évanoui. C'est formidable. Hein. Merveilleux.
Quelle pièce.
Quelle joie on a eue, toutes les deux, là. Formidable. Hein. Oh. T'étais toutes les deux là, écoutez.
On a bien ri.
On a bien ri, oui. Ça, vraiment.
Vous n'avez pas commencé à vous envoyer des fleurs, écoutez.
On non, va non dire je les vois.
On a bien ri parce qu'on a eu des complications.
Mais cela dit, ce qui a été superbe, alors ça, c'est, je pense que c'était une idée de Marie, c'était la 500e, ou je ne sais pas, il y a eu un dîner au théâtre, et au théâtre, on a l'habitude toujours pour fêter les événements, là, c'est au foyer, c'est ou un restaurant, etc. Les directeurs de théâtre, quand ils sont généreux, comme Marie invite. Et là, elle avait fait le souper sur scène. Et je dois dire que moi, c'est la première fois que je dînais sur scène. Alors les tables étaient sur la scène. Alors on a levé le rideau.
Un vrai dîner, un vrai souper.
Par petits tables invités... avec des bougies, on avait fait ça avec Françoise.
Oui.
Je dois dire, c'était du soir.
C'était
vraiment,
superbe.
Hein. C'était beau.
Alors nous dînions sur scène et c'était superbe. C'est là où j'ai eu la joie de rencontrer Michel Simon pour la première fois, qui m'a fasciné, bien entendu.
Bien sûr.
Et c'est comme ça que j'ai appris que Michel Simon avait été danseur, ce que je ne savais pas. Et il m'a dit, je faisais de la danse et je passais à un cinéma qui était très à la mode en banlieue. Qui s'appelait une chose un titre pompeux, un nom pompeux, ça s'appelait l'électrique ou une chose comme ça. Et en première partie, passait une petite dame en robe noire qui chantait des chansons réalistes, et c'était la mère d'Edith Piaf.
C'est merveilleux, oui.
Peut-être bien qu'ailleurs, une femme a le cœur qui se perd du bonheur. Comme moi, et que d'un geste heureux, elle soulève un peu le rideau de soie bleue. Comme moi, pour regarder en bas son amour qui viendra la prendre dans ses bras. Comme moi, elle attend son amour, les yeux de son amour, les bras de son amour. Qu'à l'instant elle vit le meilleur de sa vie, comme moi, et qu'en fermant les yeux, elle abandonne un peu sa main dans ses cheveux, comme moi, peut-être qu'à son cœur, elle épingle une fleur, et puis regarde l'heure, comme moi. Et pense à son amour, aux yeux de son amour, aux bras de son amour. Comme moi, peut-être bien encore, qu'elle entendra plus fort son cœur battre qu'alors. Comme moi, elle voudra crier en entendant monter un pas dans l'escalier. Comme moi. Comme moi, dans l'instant où mon cœur en suspens se retient un moment contre toi et puis meurt mon amour dans tes yeux, mon amour dans tes bras, mon
Jacques Chazot, justement, vous parlez des merveilleux. Or, vous avez écrit des histoires merveilleuses, moi, je suis le premier à le dire. C'était ces histoires de Marie Chantal. Bon, les déboires, avez-vous dit, ont commencé avec Marie Chantal. Mais quel personnage merveilleux avez-vous rencontré, je ne parle pas des amis présents, dans votre vie? Vous avez rencontré des gens qui vous ont très étonné?
Oui, très souvent. D'abord, j'aime bien être étonné, j'aime bien être fasciné par les gens que j'aime. Françoise disait tout à l'heure, c'est vrai qu'il y a des crétins que j'aime bien, mais...
c'est le côté gentil.
C'est pas vrai du tout. C'est parce que ces crétins-là ont toujours quelque chose qui vous attendrit, ou bien dans leur vie, ou bien dans leur physique, ou bien... Oui, c'est vrai.
J'aime bien, quoi.
Oui, que j'aime bien. Mais oui, mais c'est vrai, ça m'embête parce qu'elle est là, mais la personne qui m'a le plus fasciné, je devrais toucher du bois, mais il n'y en a pas, la personne qui m'a le plus fasciné dans ma vie, c'est Françoise, il n'y a pas de question. Ça, c'est vrai. Voilà du bois, oui.
On peut savoir pourquoi.
D'abord parce que j'étais...
Restez, Françoise Sagan.
D'abord parce que, évidemment, j'ai connu Françoise il y a 15 ans. Enfin, c'était au moment de son gros succès. Je n'étais pas.
Il veut dire mon âge.
Mais non, minou, enfin.
Je crois que vous ne l'avez d'ailleurs jamais caché, Françoise Sagan.
Cela dit, bon, j'étais pas complètement dans l'ombre à ce moment-là parce que j'étais en plein succès de Marie Chantal. Et je venais j'avais été présenté à Françoise et il se trouve que nous avons été à la même table le jour de la première de ma pièce, mon sketch disons, à la Fontaine des Quatre Saisons. Et puis j'avais une trouille absolument comme un auteur dramatique et Françoise, que j'avais rencontré seulement à un déjeuner 15 jours auparavant, me remontait le moral. Et puis voilà, il y a 15 ans,
ça
n'a pas arrêté, puis je suis toujours fasciné, et puis voilà, mais c'est pas un secret d'ailleurs.
Non, c'est pas un secret.
Jacques Chazot, ça ne vous gêne pas d'être cultivé dans un milieu inculte? Vous avez dit que les danseurs étaient incultes en général.
Oh!
Mais dites donc, c'est parce que justement ils sont incultes que j'ai l'impression d'être cultivé, parce que autrement. Si je vivais avec Pasteur et Madame Curie, je ferais une drôle de tête. Non, je suis très content de vivre dans ce milieu inculte qui me permet de briller.
C'est Jacques Chazot qui l'a dit.
Non, c'est vrai.
Plus rien.
Non, c'est un peu vrai. Je reconnais que c'est vrai, mais je vous explique pourquoi je suis satisfait.
Marie-Belle, est-ce que le milieu des comédiens est plus cultivé? On m'a raconté un jour une histoire qui m'a laissé pantois, que certains élèves du conservatoire, passant leur concours, apprenaient leur scène, donnaient leur scène, mais n'avaient jamais vu la pièce. Est-ce que vous voyez que c'est vrai?
Ça arrive, oui.
Et des actrices aussi, par
exemple. Des actrices aussi.
Mais ça, c'est pas une question de culture.
Il y a un acteur qui était très connu, un jour, il commence à répéter, Britannicus, c'est Cocteau qui mettait en scène. Et alors, on lui dit de jouer Narcisse. Alors, il arrive à la répétition avec un petit... vous savez, les petites brochures qu'on achète pour l'école de Britannicus. Alors, il commence à apprendre, il lit son texte, et puis je lui dis, mais t'as encore deux vers à dire. Il me dit, comment deux vers à dire? Mais c'est fini, regarde en haut de la page, il y a Britannicus.
C'est extraordinaire.
Et pas pris le reste, il avait vu Britannicus en haut, il savait pas que c'était Narcisse qui continuait. Merveilleux, non?
Est-ce que vous en trouvez encore des comme ça aujourd'hui quand vous faites passer pour votre théâtre des auditions? Non, quand même.
Non, parce que d'abord, je leur demande que juste de quelques mots pour entendre la voix, de la façon dont ils marchent, dont ils sont. Alors, je n'ai pas le temps d'approfondir s'ils sont très... Mais ça se voit tout de suite, vous savez. Mmh. Oui. Puis enfin, il y a l'intelligence de la scène et l'intelligence en dehors. C'est tout à fait différent.
Oui.
Parce que j'ai connu des acteurs merveilleux qui étaient profondément idiots. Ah, et qui avaient l'air en scène de jouer de l'Ibsen. Alors ça, comment, il y a un mystère. Là.
Oui, il y a l'intelligence.
Un mystère. C'est le mystère de la scène, ça, vraiment.
L'intelligence de la vie.
Ah oui.
C'est très, très curieux. L'humeur des personnages. J'avais l'habitude de toujours...
Mais enfin, ça devient de plus en plus rare.
Avoir l'humeur des personnages, c'est vrai.
Mais ça devient rare, quand même.
Et le point de vue de l'auteur quand on lui présente des comédiens, Françoise Sagon? Là, évidemment, ça se passe avec Marie-Belle qui vous a certainement préparé ce qu'il y a
de
mieux,
non? Ah non, elle est terrible. Oui. Oh là là, quand on en faisait passer plusieurs, elle, tout de suite, elle voyait, ah non, celui-là, il est tout à fait mon personnage. Non, ça, alors, ça, elle est tout à fait bien. Elle connaît bien. Elle a écrit ses personnages, elle le voit. Sur 5-6 qui passent, elle dit, non, moi, je l'ai vu comme ça. Alors, s'il est bien, on le prend. C'est comme ça que ça s'est passé, chérie.
La dernière fois, c'était avec Charon. Très agréable, c'est que... Vous savez, ces gens arrivent terrorisés, c'est des galopades, des jeunes filles, des jeunes gens qui ont 20, 25 ans, terrifiés, qui se disent « ma chance, c'est peut-être ma chance hein. ».
Toujours.
Et chaque fois, Charon demandait leur adresse et leur identité, et leur répondait leur main, ou non, parce que c'était généralement non, enfin en tout cas pendant un bout de temps, le temps de trouver. Il leur arrivait le lendemain illico pour leur dire que ça ne marchait pas, pour ne pas les laisser...
dans l'inquiétude.
Dans l'espoir, ce qui est pire. Ouais.
Et vous, Jacques Chazot, à propos de chance, est-ce qu'un jour, au début de votre carrière, vous avez dit, tiens, on me fait danser ça, ou je me présente pour danser ça, c'est ma chance? Est-ce qu'il y a eu le moment où ça fait tilt?
Non, moi, oui, ça m'est arrivé une fois, mais ça m'est arrivé à un moment où j'avais aucune ambition. À savoir, enfin, c'est pas un secret, enfin, pour ceux qui s'intéressent à la danse, je suis le seul danseur à danser sur les pointes.
Ah oui, il y a quelques petits mots à ce sujet.
Oui, et ce qui me plaît bien, c'est qu'un jour, j'arrivais au foyer avec des chaussons à pointes, et le répétiteur m'a dit, vous n'allez pas encore recommencer, parce qu'évidemment, quand je me mettais à tournicoter sur les pointes dans tous les azimuts, ça distrayait la répétition, et ça les danseuses applaudissaient, enfin bon. Et en fait, ça ne servait à rien, apparemment. Et un monsieur qui était maître de ballet et qui allait monter un très grand ballet au théâtre a dit, mais vous n'avez jamais fait les pointes sur scène? J'ai dit, non, jamais, maître. Bon, montrez-moi ce que vous savez faire. Et je sortais d'un de ces déjeuners qu'on me reproche maintenant, déjà. Et je crois bien qu'il y avait Chaplin, d'ailleurs, à ce déjeuner. Et je trouvais...
Oui, par hasard.
Deux petits chaussons. Et je trouvais que c'était inadmissible d'avoir un blâme pour avoir 5 minutes de retard pour répéter le ballet de Mignon que j'avais dansé 100 fois, alors que je pouvais écouter ce que disait Chaplin. Enfin bon, ça c'était mon...
C'est vous qui aviez raison.
Et je suis arrivé, peut-être pas au sein de l'administration.
Oui,
et je suis arrivé avec mes chaussons et il m'a dit, bon, alors montrez-moi ce que vous savez faire. Et alors j'ai mis ces chaussons qui étaient neufs et je me suis mis à... Enfin, vraiment, c'était un cauchemar, parce que les chaussons de pointe, on va pas se mettre à parler de danse classique, mais alors les chaussons de pointe neufs, sans être brisées et tout, c'était un cauchemar. Et là, j'ai senti que c'était tout de même une chance. Et j'ai fait des choses apparemment difficiles, et il m'a dit, bien, je m'en souviendrai. Et puis, un an après, il a monté ce ballet, il m'a donné un rôle écrasant, et c'était Léonide Massine. Ce qui fait que la première fois que j'ai dansé sur les pointes, c'est à Léonide Massine que je le dois. La seconde fois, c'est à Jeanine Chara. À ce moment-là, on m'a porté au nu en criant au miracle. Enfin, c'est comme si je faisais un numéro de trapèze au milieu du lac des Cygnes. Et puis, tout a été merveilleux, merveilleux. Et puis, il y a eu Marie Chantal. Et du jour au lendemain, je ne savais plus monter sur les pointes. Je ne savais plus danser. Je ne savais plus rien faire.
Voilà.
Oui, c'est ce que vous avez dit d'ailleurs. J'avais du génie, vous le dites entre guillemets et en plaisantant. Et quand on sait votre esprit. Et le lendemain, je dansais comme une béquille. Et on a dit de vous également, c'est Anne Manson et Michel Dunois, Jacques Chazot a un bel esprit sur des pointes, avec lui on ne sait jamais très bien sur quel pied danser, lui d'ailleurs non plus. Alors, sans penser à ces méchancetés de la presse, je voudrais quand même qu'on éclaircisse ce problème des pointes.
Je crois que ce que vous venez de dire là, c'est un propos que j'ai tenu moi. Je veux dire, je ne veux rien enlever à Madame Manson et à Monsieur, mais c'est une chose que j'ai dite, alors rendons à César.
Et alors, je voudrais quand même qu'on explique un peu ce problème de pointe qui a fait un petit scandale très parisien. Jacques Chazot danse sur les pointes, les hommes ne dansent pas sur pointe. Pourquoi, comment? Est-ce que les hommes n'ont jamais dansé sur des pointes? Est-ce que Vestris ne faisait pas des pointes?
Non, il montait un petit peu dessus, peut-être, comme ça, mais c'est tout. Et on faisait... Non, là, la vérité est que j'ai commencé la danse, et pour travailler le coup de pied, alors là, on parle technique, chère maman, écoutez-moi. Il faut commencer les pointes, par exemple pour une petite fille, il faut commencer très tard parce que ça déforme les enfants, il ne faut pas. Bon. Et puis, pour un homme, si on travaille avec des chaussons de danse à pointe, ça fait travailler le coup de pied. Le coup de pied, bon. Et je travaillais chez Peretti, qui était une étoile de l'opéra, admirable danseur, et je savais travailler la barre avec des chaussons de pointe. Et puis un jour, pour m'amuser, je suis monté dessus, puis je me suis rendu compte que j'avais les facilités d'une fille et la force d'un garçon. C'est-à-dire où une fille faisait 2 pirouettes, j'en faisais 5. C'était uniquement à l'arracher, si vous voulez. Et puis j'ai continué parallèlement à travailler à la fois les pas de garçon qui étaient nécessaires pour les examens et pour le corps de ballet, pour tout ce que je dansais, et en même temps les pointes. C'est-à-dire que si un danseur, le plus grand actuel, décide de danser sur les pointes, il ne pourra pas parce que j'ai 20 ans de pointe derrière moi, si je puis dire. Et c'est le métier.
C'est bien ce qu'on te reproche.
Oui.
Oui, mais alors là, pourquoi vous reproche-t-on? Parce qu'après tout, c'est un emploi.
Beaucoup de gens l'ont fait. Je crois que c'est pas ça. Je crois qu'on aurait bien aimé dire, par exemple, si j'arrêtais la danse du jour au lendemain et qu'il n'y ait pas eu Marie Chantal, ma vie mondaine, nanana, et on aurait bien aimé dire, pauvre Chazot, et pourtant c'est le seul à avoir fait les pointes, et comme c'était bien, et comme c'était exceptionnel, et tout de même c'était le seul, etc. Tandis que maintenant, ça a l'air une fois de plus d'une farce.
Bon, alors,
qu'on n'aime pas ça, je comprends très bien. Mais qu'on dise que c'est rien, qu'il le fasse. Parce que moi, quand je vois danser mon copain Nureyev, que j'adore, qui danse admirablement, et puis quand je les entends râler sur lui, enfin, qu'il fasse ce qu'il fait. Hein. Bon, mais moi, je serai à la place de mes camarades dont je tairai les noms, qui sont étoiles de l'opéra ou étoiles d'autres compagnies. Quand ils voient danser Nureyev, je me dirai, j'ai le même emploi, ce qu'il fait là, je peux pas le faire. Moi, je peux me requinquer, je dis c'est vrai qu'il est admirable, les 32 fouettés sur les pointes, c'est vrai qu'il les ferait pas. Je pars content.
Bon alors cette vie mondaine, parlons-en quand même alors. Elle me paraît bien sage cette
mais
vie mondaine.
Mais c'est cette vie mondaine qui a rendu les gens méchants.
Mais quelle vie mondaine? Je vais vous dire que par exemple, alors on va en parler.
Dites-nous, parlez-nous de votre
bon,
vie
par exemple pour les crétins dont vous parlez, les gens de la cabale, etc. Cette émission même est une vie mondaine.
Bien sûr.
Car avoir Madame Maribel et Madame Françoise Sagan pour une émission que vous avez la joie de m'offrir, ça a l'air d'être une mondanité. Ce sont des amis. Enfin, si c'était Madame Durand et Madame Dupont, ça ne vous intéresserait pas.
Pas
encore
tout.
Que j'ai rien ni contre Madame Durand ni contre Madame
Dupont.
Non,
non, non, ça n'a pas du tout la raison,
parce qu'il y en a beaucoup.
Oui.
Décidément, vous connaissez le bottin par cœur, Françoise Sagan, vous avez vu. Oui, alors, trêve de ces méchancetés, on vous a...
Trêve de vos méchancetés.
Ah non, ce sont pas les miennes, d'ailleurs, vous pouvez voir, j'ai les références. Car moi, au contraire, je peux me permettre de le dire, l'issue, oui, dans cette émission, que j'aime beaucoup Jacques Chazot, j'aime beaucoup ce qu'il fait.
Ah bon. Oui, oui.
Et alors, il y a un truc qui, moi, m'a amusé, je ne sais pas si vous allez sourire ou pas, et qui est extrait de la mascotte « c'est moi, Saltarello ». Dès que je parais subito, autour de moi, chacun s'écrie qu'il est joli, qu'il est coquet, je ne sais pas chanter. Ah. Et qu'avec grâce, il se balance, à quel esprit, à quel jarret, voilà le vrai dieu de la danse.
Oui.
Est-ce que vous croyez que c'est trop ou pas assez?
Je sais pas, enfin, mascotte me séduit assez. Dieu de la danse, mon Dieu.
Attendez, on va regarder tout
nous
ça.
Sommes, nous sommes, non, nous sommes nombreux.
Dieu de la danse, il y en a beaucoup.
Et il y a aussi extrait du journal des Goncourt, sur lequel est sorti ça. Certains mots de méchanceté sublime sont donnés à des femmes sans intelligence, comme le vénin est donné aux vipères.
Oui.
Mesdames, je n'ai pas parlé de vous, bien entendu.
Oh. Ça.
Alors ça, c'est vrai.
C'est le bouquet, alors.
C'est
on
vrai.
Se lève, on s'en va.
C'est vrai que j'ai sorti ça. J'ai sorti ça et je suis très content de m'en être souvenu parce que je faisais allusion aux femmes du Second Empire que j'admire énormément. Je veux dire que les courtisanes du Second Empire, comme la Païva par exemple, me fascinent. Je veux dire que les femmes du Second Empire, en plus d'être courtisanes, avait beaucoup d'humour.
Sûrement, c'était pas. On a travesti. Vous avez raison.
Ce qui n'existe plus. Je veux dire qu'elles ne se contentaient pas. Elles n'étaient pas des poules au bouchon toutes. Enfin, c'était pas. C'était sur un. Enfin, si Théophile Gautier, les Goncourt dont vous parliez, Arsène Housset, etc. Si tous ces gens allaient chez ces femmes, il y avait tout de même une raison.
Chose,
ils n'étaient pas à l'affût d'un steak. Ils l'avaient. Ils pouvaient se l'offrir. Je veux dire que ces femmes étaient des femmes fabuleuses. Et moi, j'ai beaucoup de mots de femmes célèbres qui me fascinent, enfin, des rivalités de courtisanes, qui, à une certaine époque, ont été des rivalités de théâtreuses et qui, à notre époque, n'existent plus.
Certainement que des femmes de cette époque-là avaient une classe, même une
ça
culture, enfin, n'étaient pas des petites imbéciles.
Ah non.
Mais oui, mais je me souviens, par exemple, d'une Jean Nohain, à qui je dois beaucoup, parce qu'il y a la période télévision, elle m'avait raconté qu'il avait dit le prochain thème de l'émission sera sur les sept péchés capitaux. Alors il y avait une starlette idiote qui cherchait un rôle qui était là, etc. Alors on parlait de la luxure, blablabla. Et puis à un moment donné elle dit, mais monsieur Noël, alors comment vous allez faire pour tes pères et mères honorera?
Oh, c'est une drôle. Oh.
Voilà, ça résume tout, quoi.
Vous parliez, Jacques Chazot, des femmes du Second Empire, enfin du 19e siècle en général, avant ou après le Second Empire, Georges Sand a couvert presque tout le 19e. Cette collection que vous avez chez vous.
Oui.
Oui, vous l'avez faite comment? Par amour, bien sûr, comme
pas du tout collectionneur. Pas du tout. C'est parti d'une passion que j'avais pour Georges Sand, non pas du tout pour sa littérature, parce que Consuelo et tout ça, il faut se le lire. Mais,
ah oui, mais l'histoire de ma vie, c'est pas mal.
L'histoire de ma vie est fabuleuse. Mais j'étais fasciné par son entourage et par sa vie. Je veux dire que j'étais, je ne sais pas, j'ai toujours, je le suis toujours d'ailleurs. Et j'ai commencé à collectionner tout ce qui avait trait à George Sand. Malheureusement, André Mauroy, que j'aimais bien, et sa femme collectionnaient aussi tout ce qui avait trait à Sand. Et beaucoup de gens, tous les gens qui s'intéressent au romantisme collectionnent Sand. Je veux dire que le monsieur qui collectionne Chopin collectionne Sand, le monsieur qui collectionne Musset collectionne
Sand.
C'est
ça, personne n'interpose.
C'est-à-dire qu'on ne peut rien trouver. Et puis, petit à petit, je me suis dit, la barbe, je ne trouve rien. Et puis j'ai commencé, je me suis dit, après tout, Marie Lagoue, c'était une copine rivale. Et j'ai commencé Marie Lagoue, et puis petit à petit, puis je me suis dit, Sarah Bernard, au fond, elle jouait à l'Odéon, Sand était dans la salle, et puis c'est comme ça que je suis venu à collectionner les femmes célèbres. Je continue d'ailleurs avec mes amis présents.
Ah, vous êtes dans la collection, Marie Lagoue? Sous quelle
Françoise
forme
aussi. Présente et vivante.
Ah, présente et vivante.
Elles sont là toutes les deux.
Toutes les deux, là.
Est-ce que vous avez ce goût de la collection, Marie?
Non, du tout.
Pas du tout.
Absolument pas.
Vous avez dit tout à l'heure que vous vivriez très bien à l'hôtel.
Oui, très bien. Oui.
Entre deux valises, entre
ah,
deux tournées.
Ah oui, je n'aime que les bagages.
Vous n'aimez que les bagages. Ah, et vous, Françoise Sagan?
Moi aussi.
Oui, comme moi.
Mais pourtant, on a dit que moi, vous étiez une
gars.
Bourgeoise.
Oui, bon, j'aime les trains. Avions, la voiture ne me fait pas le même effet. Mais j'adore les trains.
Je vais vous dire quoi, une bourgeoise, je ne sais pas.
Non, non, mais on a écrit ça de vous, souvenez-vous. On dit Françoise Sagan est une bourgeoise qui écrit, enfin... Vous voyez, organisé dans des collections.
On a plutôt vu généralement dans les fins d'après.
Nous sommes bourgeois, peut-être.
Je me voyais en Ferrari buvant au boulot, enfin, des choses comme ça.
Oui, c'est la bourgeoisie de nos jours, enfin. Mais rentrant quand même dans son appartement.
Les gars.
Je suis dans un appartement à mesure que j'ai un enfant, ça oblige un léger ordre.
Oui, non, je parlais avant d'ailleurs, votre mariage et votre enfant, je parlais de l'époque de votre premier livre. On a dit en fin de compte, c'est une petite bourgeoise. Enfin,
on
dit bourgeoise.
C'est ça la bourgeoisie, mais on ira pas loin.
Elles ont un goût en commun, Françoise et Marie. Elles n'aiment pas beaucoup les objets, ni l'une ni l'autre, mais elles adorent les tableaux.
Vous aimez la peinture, oui, aussi?
Je n'y connais rien du tout.
Mais par goût, en fait, c'est pas une question d'y connaître, il y a des gens qui s'y connaissent en peinture et qui ne font que des gaffes.
Non, je pense, par exemple...
Parce que la peinture n'est pas un sentiment.
Ah, si. Hein? Moi, j'aime beaucoup la peinture.
Mais elles deux connaissent beaucoup mieux la peinture que moi, elles aiment beaucoup plus que moi, j'aime mieux les objets.
Et les tableaux, c'est très bien parce qu'on peut les emporter, même dans un hôtel, vous comprenez, c'est tout à fait différent.
Vous aimez la peinture.
Oui, beaucoup.
Alors, je disais justement que la peinture est une chose qui, en principe, devrait s'acheter par sentiment.
Ah, mais je l'achète par sentiment.
J'en veux pas, mais nous parlons.
Ah, bah oui,
Jacques
Chazon
dit,
sûr.
Moi, je m'y connais pas très bien.
Ah, si, moi, je m'y connais. Oui, mais
même est-ce que c'est
même
très important
de s'y connaître?
Même quand
on s'y connaît pas, on aime pas une peinture.
Une question de sentiment.
Ah oui, c'est une question d'impression. Je pense qu'on n'a pas besoin de s'y connaître.
Il y a tel et tel tableau.
On a un choc.
Sur celui que je préfère. Je n'hésite pas si... Mais moi, j'aime beaucoup la peinture, énormément.
Vous aussi, Françoise Sagan, parce que ça se voit.
Moi, je n'ai pas un tableau qui vaille grand-chose, je crois, mais des choses qui me font rêver un peu, j'aime bien. Mais je ne connais rien du tout. Je ne me connais pas du tout.
Mais Marie, par exemple, dans sa loge au gymnase, a des tableaux superbes, qui sont beaux à regarder et qui sont de grande qualité, qui sont des grands tableaux.
Tableaux chez moi aussi, j'aime beaucoup. Les tableaux, j'aime
bien. Moi, je ne sais pas.
J'aime beaucoup les Degas, les Renoir. Non, mais vous les aimez.
Oui, mais je veux dire
vous
qu'on
veut...
Ça vous correspond, on sent une sensualité, un esprit,
vous aimez les
un goût, un j'aime goût les tableaux comme un objet.
Ah oui, j'aime ça. Les tableaux, j'adore.
Je veux dire qu'on
mais
vous dirait...
Par exemple, ça ne m'intéresse pas du tout.
Comme ah bon, avoir le secrétaire de Marie-Antoinette...
Parce... Oh, ça, alors, ça m'est tout à fait égal.
Non, ça vous est
égal. Ah non, pas du tout. Mais moi, si on... Marie-Antoinette, non.
Ah, moi, j'adorerais, mais moi, si en revanche,
je
on revanche...
Si on me le donne.
Si on me donne un Van Gogh, je te le donne.
Ah oui, c'est ça.
Un Van Gogh qui ne me plairait pas, j'en veux pas.
Si on téléphonait à Maurice Rhin, c'est peut-être des affaires à faire. Non, passez-moi un Van Gogh pour Marie Belle.
Je crois que Françoise est comme moi. Non, ça, les meubles, non, les choses comme ça. Je n'aime pas m'attacher aux choses. Je n'aime pas garder les choses non plus.
Personnellement, je déménage.
Garde jamais une lettre, jamais rien. Pas de photos, genre de ça.
Mon Dieu.
Tu gardes rien.
Et vos rôles, Marie Belle, est-ce que vous les gardez? Je veux dire par là que. Ne jouant plus
j'aime
maintenant Phèdre à la scène.
Pas à la même place.
Est-ce que Phèdre est toujours à vous
que
là
ça... Ah oui, c'est toujours dans un coin, chose, bien sûr. Oui.
Ça détériore.
Et vous, qu'est-ce que vous gardez, Jacques Chazot, en dehors des bustes de vos dames du 19e dans votre
mais moi, c'est une
personnelle, qu'est-ce que vous gardez?
Moi, c'est une abomination parce que un objet, c'est sacré, et deux, c'est une collection. Alors, j'en sors pas.
Comprenez? Vous avez un grand appartement?
Non.
Oh, si,
mais vous, grand, mais c'est pas grand, mais ça sera jamais assez grand parce que les placards sont bourrés de trucs et j'oublie même ce que je vais au puce. Par exemple, je vois un truc, je dis, oh, quelle beauté. Puis je l'achète, puis il va nulle part, puis je mets dans un placard. Et puis, 4 mois après, chez un antiquaire, je vois une chose qui est dans de même matière. Je dis, oh, mais ça va tellement bien avec l'autre chose, je l'achète. Et puis à côté, ça va pas du tout, ça fait rien, boum. Et puis je commence tout à coup la collection de ça. Ça a toujours été comme ça.
Autrement dit, recoup de téléphone à Maurice Reims pendant 70 ans, la succession Chazot.
Mais ça, il le sait, Maurice. Il l'aura avant 70 ans parce que je ferai une grande vente avant de me
repentir.
Et on dira encore, et on dira encore que vous êtes snob. Et on dira encore que vous êtes snob et avant d'entrer à la trappe, vous vendez vos collections.
Avant de sortir de la trappe, mon cher, je fais du théâtre, enfin, ça va pas.
Il est dans la trappe.
Pourquoi vos vieux jours, vous les voyez où, Jacques Chazot? Sur la côte bretonne, non sûrement
pas. Mmh, parce que je sais, on fait des projets, on pense à ceci, on pense à cela, puis on sait, on est écrasé par le bus. Alors vraiment, non, alors rien, aucun projet, tout avance avec moi comme un mur, et puis on verra bien, non. Qui pense à ces vieux jours, on s'en fout, on vit une époque
divine.
Vraiment,
oui.
On aura une petite piqûre qui va nous faire tout à coup avoir 14 ans et demi, à re à gueule, appeler le saut, et vas-y dans le square. Oh ben non.
S'il reste des squares.
Mon enfance jouait par là, je me souviens de cela. Il y avait une palissade, un taillis d'embuscade. Les voyous de mon quartier venaient s'y batailler. À présent, il y a un café, un comptoir tout neuf qui fait de l'effet, une fleuriste qui vend ses fleurs aux amants et même aux enterrements. Je me souviens d'un coin de rue, aujourd'hui disparu. Je me souviens d'un triste soir où le cœur sans espoir, je pleurais en attendant un amour de 15 ans, un amour qui fut perdu juste à ce coin de rue. Et depuis, j'ai beaucoup voyagé, trop souvent en pays étrangers. Monde neuf, construction et démolition, vous me donnez des visions. Je crois voir mon coin de rue et soudain apparu, je retrouve ma palissade, mes copains, mes glissades, mes dessous muguet de printemps, mes 15 ans, mes 20 ans, tout ce qui fut et qui n'est plus, tout mon vieux coin de rue.
François Sagan, est-ce que dans vos livres, vos amis sont présents? C'est une question indiscrète, mais je sens une telle amitié, une telle vérité, comme ça, tous ensemble. Est-ce que vous les reprenez comme ça, même inconsciemment? Non, jamais, non.
Non, je n'ai jamais servi de mes...
Il y a une rupture, il y a un monde.
Non, c'est toujours une histoire de personnes, généralement assez falotes, comme on dit, mais une situation. Mais les gens que je connais, je n'utilise jamais. Peut-être inconsciemment un réflexe que j'ai vu, peut-être, mais délibérément, non?
Oh, je ne sais plus, dans le troisième roman, il y avait une réplique à un moment qui était bien de moi. Ça.
C'est-à-dire que dès que j'écris une chose qui peut paraître un petit peu drôle, ou qui fait rire les gens, je me dis, ah ben ça c'est moi qui te l'ai dit.
Mais il y a une chose qui est tellement drôle à propos de François, c'est que comme ses héros sont toujours des gens très séduisants, Et c'est arrivé pour tous les livres. Il y a toujours à tous les cocktails ou les dîners où les gens admirent Madame Sagan, j'aime tellement, c'est ça. Et on lui dit, oh, mais dans Bonjour Tristesse, le personnage, c'était tellement moi, vraiment, je vous connaissais pas, mais c'est complètement ma vie. Ou alors un monsieur qui dit, mes dents et mes vous bras, mais enfin, c'est tellement moi, vous comprenez, c'est à croire que nous sommes rencontrés, nous aurions dû. Et puis ça arrive sans arrêt, non, franchement.
À un moment, qu'est-ce que c'est ça qu'on peut appeler, alors là, sans prendre de grands mots, la consécration, si les gens s'y retrouvent, ça prouve que.
Mais tout le monde s'y retrouve, tout le temps.
Quand le spectateur se dit, en fin de compte, Marie-Belle en scène, Phèdre, eh bien, c'est moi, dit la dame, tout compte fait, vous avez gagné la partie.
Oui, bien sûr.
C'est pareil en littérature.
Comme une dame au premier rang, quand elle était en matinée, un jour, il y avait un couple, et la dame était un peu sourde. Et le monsieur, moi, j'étais dans mon truc, je ne me pensais plus. On me l'a répété après. Et alors, le monsieur, elle disait toujours, qu'est-ce qu'elle dit? Alors, le monsieur lui dit, elle dit ça, puis, hein, que ne suis-je assise à l'ombre des forêts? Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit qu'elle voudrait être dans les bois. Alors, on les a sortis, parce que c'était pas possible.
Oui, en somme, quand vous dînez en ville, Jacques Chazot, Françoise Sagan ou Marie-Belle, vous n'avez pas comme un auteur très connu, que je ne me permettrai pas de citer, qui m'a dit un jour, mais vous avez tort. Si vous voulez écrire, faites comme moi, sortez vos petites fiches et vous notez tout ce qui se dit.
Oh, quelle horreur.
Oh, on en connaît plein qui font ça.
Ah oui.
Ah oui. Il ne faut pas les nommer non plus.
Ah non, vous
ne
pas les nommer.
Il
y en a qui font ça.
Ah oui. Oui, bien sûr. Mais, ils écrivent, celui à qui vous faites allusion, je pense, écrit bien d'ailleurs, mais.
Très bien.
Mais parle peu.
Ah non, celui auquel je pense.
Non, c'est pas le même.
Il écrit très bien et parle admirablement.
Ah ben c'est pas le même.
Non, c'est pas le même.
C'est beau, il y en a plusieurs, c'est très bien.
Ouais.
Que oui.
Peut-être ennuyeux de prendre des notes comme ça. Voilà. Hein?
Surtout que généralement c'est illisible après.
Ouais.
Ah ben vous savez qu'il y en avait, je ne sais plus qui, vous le savez, Jacques Chazot, qui a une très grande culture, qui écrivait sur ses manchettes. C'est Courteline, non? Qui écrivait sur ses manchettes, non pas ce que disaient les autres, mais les répliques qui lui arrivaient à l'esprit quand il était au café ou ailleurs.
Ah oui, il écrivait sur ses manchettes.
Non, qui est? C'est un auteur de la fin du 19e. Au début du 20e, j'ai perdu le nom.
Sans être Courteline.
Jules Renard.
Ou Jules Renard, oui. Une idée lui est arrivée, hop, il notait sur ses manchettes en. Comment ça s'appelle
les mots? C'est Lulot.
Oui.
Mais Marcel Jouhandeau, mon vieil ami, note sur des petits bouts de papier.
Vous savez que Marcel Jouhandeau, il ne faut pas lui dire un mot. Parce que 8 ans après, vous vous retrouvez dans le bouquin.
Non.
Ouais. Ah, si. On va faire une interview chez Marcel. J'aime beaucoup.
Il prend beaucoup de notes. Et
je crois que c'est un des grands.
Et il parle, c'est un très grand auteur.
Qu'en pensez-vous, François? C'est difficile de demander à un auteur pour un autre auteur, mais enfin, comme c'est très différent.
C'est un
très grand.
C'est un merveilleux écrivain.
Merveilleux écrivain.
Il écrit très très bien.
Et
c'est un conteur.
Il met tout dans sa tête.
Et
puis, quand sort un bouquin, 5 ou 6 ans après, vous lisez le passage, vous dites, mais. Ça se passait, nous étions une voiture
endroit,
radio, nous étions allés chez lui ce jour-là, on a interviewé à tel sujet, la conversation, hop, il l'avait remis, c'est très dangereux, ce qu'on apprendra sur Lily Sue dans les prochains livres de Jouhandeau.
Il y a une chose qui disparaît complètement, c'est qu'il a un style parfaitement châtié, parfaitement pur. Alors ça, ça disparaît à vue d'œil.
Et dans les manuscrits que vous...
Hélas.
Et dans les manuscrits, justement, Marie-Belle, que vous lisez, est-ce que vous trouvez aussi cette carence de style des jeunes écrivains de
Oh là là, c'est difficile.
Marie-Belle, vous lisez beaucoup le manuscrit?
Oh oui, beaucoup. Il y a beaucoup de manuscrits et peu d'élus. C'est très difficile, ça, c'est très difficile. C'est une période très très mauvaise. En plus, c'est, à part François Sagan qui écrit des pièces merveilleuses où il y a des rôles de femmes, mais c'est un cas, parce que c'est une époque masculine. L'époque actuelle n'est pas faite pour les femmes. Toutes les pièces que je lis, c'est tout sans des rôles d'hommes. Et vous pouvez regarder, c'est vrai, on ne voit que des pièces d'hommes. Les pièces que je reçois, ce sont des rôles d'hommes. C'est très curieux.
C'est étrange pourtant.
C'est étrange, mais c'est vrai.
L'émancipation de la femme est étrange.
Mais oui, mais c'est très curieux. Il y a des rôles d'hommes. On ne fait que des rôles d'hommes.
Je commande des textes à des écrivains, pas des auteurs dramatiques, mais à des écrivains.
Oui.
Il y en a certains qui écrivent admirablement, mais ils n'écrivent que pour les hommes.
Mais oui, que pour les hommes.
C'est très curieux.
Ah oui, ça m'a beaucoup frappé.
Mais même Françoise Derain, qui est dans les pièces Marche à fort, maintenant, boum, ça y est, cette fois-ci, c'est un homme.
Oui. Ah oui, mais c'est une époque d'homme.
C'est une revanche.
Oui, c'est une revanche. Mais nous aurons la nôtre. Laissons les faire.
C'est pas le genre à caler.
Non, laissons les faire.
Je trouve ça triste.
Quoi donc?
Bah oui. Une pièce en fa, c'est triste.
Ah oui, je suis d'accord. Mais je comprends pas très bien, d'ailleurs, ce processus.
Il y a des rôles de femmes, enfin des rôles très secondaires.
Où les femmes sont quand même pratiquement nos égales, maintenant, non?
Ben oui, mais justement, c'est peut-être à cause de ça, je ne sais pas.
Bah, les femmes ne sont pas vos égales, dans la mesure où elles ne le pensent pas, et vous ne le pensez pas.
Oui, ça, je crois que Françoise a raison.
Encore. Oui, vous me direz que ce sont des cas particuliers,
certaines
ça dépend.
Certaines le pensent, mais non. Les hommes ne le pensent pas.
La majorité des femmes ne le pensent pas et les hommes ne le pensent pas non plus. Et d'une certaine façon, je me demande s'ils n'ont pas raison.
Il
non,
paraît...
non, non, ils n'ont pas raison.
Pourquoi
cette humilité me bouleverse.
Non, ça, je non, c'est pas d'humilité. C'est une simple raisonnement, c'est des forces différentes.
Vous savez que Claude Salvi me disait que dans le domaine de la mode, les hommes acceptaient que les femmes soient en mini-jupe, les secrétaires dans nos bureaux, ouais. N'est-ce pas, en mini-jupe, ouais. En disant, oh la petite chérie, bon d'abord c'est joli à voir, parfois, pas toujours, ouais. Il faudrait que les modes soient adaptées à chaque femme, bien sûr, c'est joli à voir, très bien. Mais rouspète après les femmes en pantalon, parce qu'ils ont l'impression qu'on leur a pris leur objet. Je trouve ça assez extravagant, non?
Oui, ça c'est vrai. Ouais.
C'est Claude Salvi qui m'a dit ça,
c'est
oui.
Très juste.
Ouais. Alors moi, je ne trouve pas qu'une femme en pantalon soit...
Ah non, pas du tout.
À aucun prix. Enfin, sous quel angle peut-on la trouver
répréhensible? Vous savez, vous êtes...
Où ça lui va, où ça lui va pas? Mais oh, la ouais, mini-jupe, est-ce mais... que ça lui va,
oh, bah, voyons,
ça lui va
je
pas.
Suis d'accord avec vous. Hein? Je trouve que c'est à New York, des pantalons, moi. Mais... Je suis souvent en pantalon.
À New York, mais... une femme peut arriver dans une boîte de nuit avec une robe de Paco Rabanne en femme, avec les seins à l'air. On la laissera s'asseoir et déjeuner et du dîner. Et elle arrivera en pantalon très élégante. On la recevra pas.
Mais c'est pour une raison très simple. C'est parce que une femme qui arrive en mini-jupe, apparemment, elle fait tout pour séduire le mâle qui est là.
Oui.
Or, si elle met en pantalon, elle lui prend son pantalon, si je peux dire.
Oui, mais c'est ça, c'est l'idée de...
Alors, c'est très simple, c'est un réflexe...
Et l'homme se sent...
Mais maintenant, les hommes vont être habillés en femme.
Ou déculottés.
Je sais bien qu'il y a des plans, mais je trouve ça...
J'en ai vu quelques-uns, déjà.
Oui, moi aussi.
Oh, c'est irrésistible.
Si c'est joli,
je trouve ça horrible.
Quand vous parlez des robes pour hommes.
Oui, mais écoutez, moi je ne les ai pas vues.
Moi j'en ai vu.
Mais enfin, non. Moi qui adore l'islam, qui a. Enfin, lui, bien sûr, je ne fais pas une politique en disant ça. J'ai moi-même une djellaba. Et
ah, ça, c'est merveilleux.
Je ne trouve pas, ni déplacé, ni à contre-temps, ni tout ce que vous voudrez, n'en parlons pas, le fait de porter. J'irai une de vos soirées, mon cher Chazot, à l'Opéra Comique, avec une très belle djellaba.
Ah bon, bah, alors je vous accompagne et moi je vais en crinoline, dans ce cas-là. Parce que,
Il n'y a pas de raison.
Il n'y a pas de raison, enfin, c'est pas juste.
Je trouve ça.
Je veux dire, non, moi je ne vois pas ça du tout. Vous vous imaginez, allant par exemple, voir tout à coup, vous êtes seul chez vous, vous avez envie d'aller vous taper un film au studio 28, et vous voyez partir djellaba, prendre un taxi, aller djellaba.
Je trouve qu'on pourrait le faire, ça n'a rien d'indécent.
C'est pas que c'est indécent, c'était pas joli.
Ça ne va peut-être pas dans notre cadre, dans notre civilisation ici. Ça, c'est autre chose. Mais je parlais en soi. En soi,
djellaba en soi, mais dites-le tout de suite.
Comme il est snob. Non, mais pas du tout.
C'est très bon, djellaba.
Très bon, djellaba.
Oui, mais pas à Paris, enfin, c'est grotesque.
Chez soi.
C'est la dame qui déciderait de se balader toujours à cheval et de monter en Amazon. Excusez-moi de vous dire qu'à Saint-Germain-des-Prés, elle aurait l'air grotesque, enfin.
Ben oui, mais alors écoutez.
Elle aurait l'air grotesque à cheval aussi.
Vous qui êtes des esprits libres.
Ça dépend du cheval.
Ah oui.
Ah, là on a atteint le point sensible de Françoise Sagan.
Toi, tu penses à Pimpin en Normandie, mais celui-là il pourra pas bouger, alors on est tranquille.
Je pense à un beau joli cheval, c'est toujours beau à voir.
Oui.
Ah, ça, les chevaux,
ah,
c'est
oui,
super.
C'est beau à voir.
Mais je comprends pas, vous qui êtes des esprits libres, et vous le prouvez par vos écrits, par votre talent, par le choix de vos pièces, vous, par votre danse, etc. Vous êtes quand même un tout petit peu conventionnel sur ce point qu'on vient de prendre. On aurait pu parler d'autre chose, d'ailleurs.
Mais non, pas
d'ailleurs.
Du tout, c'est pas joli. Ça n'est pas joli,
non,
ça
non,
ne va
Jacques
pas.
Jacques a dit, avec juste raison, pas dans notre cadre.
Voilà.
Mais si ça plaît
moi,
à
ça
quelqu'un,
pas
pourquoi...
tellement, c'est assez... Il y en a qui ça irait très
si
bien.
Si je vous présentais mes hommages, Angela, vous me tourneriez le dos,
pas du
Marie
tout, pas, sûrement pas.
Bon, moi, je rirais tellement que je ne pourrais pas vous dire bon.
Je ne vous tournerais sûrement pas le dos. Non, je regarderais votre Angela d'abord pour voir si elle vous va bien.
D'une part, moi, je sais que je n'ai absolument rien dit à ce sujet. Et deuxièmement, je crois qu'il y a une chose exactement vraie, c'est qu'on est absolument sept. C'est quand même un petit peu une provocation pour un homme de sortir avec une mini-jupe, enfin une robe qui tombe à la cheville.
Maxi-jupe.
Une maxi-jupe qui est droite. C'est un peu une provocation, c'est une façon, même si c'est normal. Et je crois que les gens sont absolument saturés des provocations.
Oui, ça je vous comprends. Si c'est une provocation, et d'ailleurs,
les gens commencent à avoir
peut-être que ça.
Vous avez raison,
enfin.
C'est tout.
Vous n'allez pas
c'est
me
uniquement
dire.
Ça. Les gens ont une réaction.
Cela dit, on doit se dire qu'au moment où les jeunes gens justement qui provoquaient se sont mis à se laisser pousser les cheveux, on s'est dit mais comment, etc. Mais c'est ridicule, ça patine, etc. Et on s'aperçoit maintenant que dans les garages, dans les usines et un peu partout, il y a des jeunes gens qui travaillent aussi dur que les autres et qui ont les cheveux très longs. Alors on se demande si tout à coup on va pas trouver un garagiste qui sera en fourreau pailleté, enfin en rêve.
Mais ça serait bien pour les cheveux.
Tant d'essence,
il arrive tout
en paillettes.
Ça serait merveilleux.
Oui, mais au début, on n'y croyait pas non plus. Alors, si cette mode prend tout à coup, pourquoi pas?
Les hommes ont porté les cheveux longs pendant des années.
Mais Dieu sait que je suis pour la provocation, mais vestimentaire, ça me paraît tellement.
Mais superflu, enfin.
Oui, superflu.
Mal élevé, moi, je trouve.
Loin.
Quoi?
La provocation vestimentaire est mal élevée.
C'est quand même une provocation politique. Pardon.
Oui et non. Parce que vous savez, il y a quand même une chose. Je le dis devant Jacques Chazot, qui est dans un très beau costume en gris anthracite.
Cardin,
bien sûr.
Oh, pardon.
Il y a tout de même...
Un vieux cardin.
Il y a tout de même la reine Victoria qui nous a mis, nous les hommes surtout, vous un peu les femmes, mais quand même vous avez réagi avec beaucoup plus d'élégance, en noir pour un siècle et demi. Reprenez les photos de 1930. Monsieur Tardieu à la chambre était habillé comme le prince de Galles en 1880.
Oui.
C'était pas très joli. Non. Actuellement dans la mode, enfin il y a même quelques années, il y a eu le goût de l'uniforme. Ils sont déguisés en Mao. Avant ils se sont déguisés.
Bah, ça c'était assez joli.
Non mais c'était assez joli, mais ils se sont déguisés en guerre de sécession. On en a vu dans tous les clubs que nous fréquentons, car nous sommes snobs, n'oublions pas.
Nous sommes snobs.
Disons que nous sommes noctambules.
Ou noctambules. Et Jacques Chazot, cette mode alors?
Ah non, moi, vous savez, je me suis toujours. Dieu sait que j'ai fait quelques petits excès. Vous l'avez lu dans les coupures de presse. Mais en ce qui concerne la mode, je me suis toujours habillé d'une façon anodine. Et je trouve que l'élégance d'un homme, c'est justement de n'en pas avoir et qu'on ne le remarque pas. Et j'ai remarqué également une chose, c'est que si vous allez à une première et que l'homme est en smoking et que la femme soit en cours et n'ait pas le temps de se changer, si l'homme est en smoking, il fait habiller et il est l'écrin de la femme, il la met en valeur. Et par conséquent, nous sommes anodins, à notre place, et la femme est en valeur. C'est toujours ce que j'ai fait, c'est toujours ce que je ferai.
Oui, alors moi je dirais à ce moment-là que si on prend la question de la nature, ce sera en somme contre nature, car nous savons tous que dans la nature, ce sont les mâles qui ont le plus beau plumage ou le plus beau pelage, et les femelles qui ont le moins beau.
Est-ce que c'était le but de cette émission, monsieur?
Non, mais...
Dans la série Carte blanche, Lily Sioux a donné le feu vert à Jacques Chazot, qui avait à ses côtés ses deux amis, Françoise Sagan et Marie-Bel. L'émission était présentée par Lily Sioux et François Le Targa. C'est Marthe Labastide qui en était l'assistante de réalisation.
Cette émission a été diffusée pour la première fois sur France Culture le 10 août 1970. Vous pourrez la réécouter en ligne ou la télécharger sur le site franceculture.fr, rubrique Les Nuits de France Culture.